le temps buissonnier. Le temps buissonnier partagé aujourd'hui avec Luis Sepúlveda, écrivain, journaliste et dramaturge chilien, qui écrit et nous offre la possibilité d'un autre monde que le monde capitaliste mortifère. Vous avez peut-être lu son premier roman, traduit en 35 langues, c'était Le vieux qui lisait des romans d'amour. Aujourd'hui, nous parlerons plus particulièrement de ses livres accessibles aux enfants et aux adolescents. Le temps buissonnier partagé également avec son éditrice Anne-Marie Métellier, éditrice et fondatrice de la maison d'édition indépendante qui porte son nom. Elle est spécialisée dans la littérature lusophone et hispanophone, mais aussi quelques français et italiens. Je pense à Serge Quadripani aussi, par exemple, qui nous donne de bons romans policiers. Voilà une certaine cohérence éditoriale et elle sera aussi l'interprète derrière ce micro de Luis Sepúlveda. Je dois vous confier mon désarroi devant les tribulations de mes deux amis Carmela et son grillon Negrito. Non seulement ils ne sont pas remontés dans notre petit village de Haute-Ariège après les élections, mais j'ai dû aller les chercher deux fois au commissariat la semaine dernière. Heureusement que le grillon n'a que faire d'un casier judiciaire et que Carmela, grâce à son jeune âge, 11 ans, ne risque pas de voir le sien bien rempli. Du moins, j'espère. Non, ils n'ont pas jeté des œufs à la tête du nouveau président de la République, ni jeté de l'eau sur la maire de Paris, Anne Hidalgo, comme ils le projetaient lors de son passage, porte de la Chapelle, où survivent à peine des centaines de réfugiés. Non, jeudi dernier, ils ont manifesté devant l'immeuble Bolloré. Ils n'étaient pas seuls pour une fois. Ils étaient avec la Confédération paysanne, REAC, sortir du colonialisme, survie, attaque, etc. Tous manifestaient en solidarité avec l'alliance des riverains des plantations de la Socfine et Bolloré au Libéria, en RD Congo, au Cameroun, au Nigeria et en Côte d'Ivoire. Mais Carmela et Negrito ont réussi à se faufiler dans l'Assemblée Générale des Actionnaires malgré le déploiement impressionnant des forces de police. Et là, Negrito le grillon a harcelé M. Bolloré tout au long de son intervention en voletant autour de son visage, en se posant sur le bout de son nez, en envoyant son cri strident au plus près même de ses oreilles et en hurlant dans le micro « Bollo la pieuvre, Bolloré, Vivendi, elfes se servent à la pompe Afrique ». Quant à Carmela, bien sûr, elle fonçait sur tous les micros destinés à recevoir les questions des actionnaires en hurlant « Qui sème des palmiers, récolte des pavés ?» Bref, les vigiles ont fini par attraper Carmela et les ont livrés aux policiers. J'ai eu beaucoup de mal à convaincre le commissaire de police de les laisser sortir, vu leur âge et l'insignifiance de ce petit grillon tout noir. J'ai dû encore une fois signer une décharge. Une fois chez moi, j'ai averti mes deux amis. « Non, mais ce n'est pas bientôt fini, vos bêtises, là ?»« Nos bêtises, mais c'est toi qui ne comprends rien. Tu es complice de l'irresponsabilité des multinationales et des gouvernements qui les servent. »« Oh, taisez-vous, hein, pourquoi pas, agent du grand capital, tant que vous y êtes. » Eh, pas loin, ricana le grillon en se posant sur mon nez. Ah, toi, sors de là, je ne supporte plus non plus. Eh, tu vois ce que cela fait quand on occupe les terres des paysans. Mon nez n'est pas une terre ni un cap. La prochaine fois, je vous laisse au commissariat. Tant pis. Malheureusement, le vendredi, le lendemain, l'ambassade du Maroc me téléphone pour aller rechercher au service de sécurité mes deux amis. Et évidemment, j'y suis allée. Et à nouveau, nous avons eu une discussion franche. Mais je vais devenir folle avec vous. Entrer par effraction à l'ambassade du Maroc avec des banderoles. Mais plus rien ne vous arrête donc maintenant. Tu as raison, nous les petits, les insectes, ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, qu'on écrase, rien ne nous arrête. Et je peux savoir ce qui vous déplaît au royaume du Maroc? Ben la dictature, oui, fais pas cette tête, la dictature, tu as bien entendu, celle d'un roi et de ses amis, dont la France, me décocha Negrito avant de laisser Carmela m'expliquer. Évidemment, tu ne sais rien des milliers de personnes qui manifestent dans le nord du Maroc en ce moment. Rien de la mort atroce d'un vendeur de poissons broyé accidentellement dans une benne à ordures. Rien des prisonniers sahraouis à Rabat. Rien du Sahara occidental, toujours occupé par le Maroc. Rien du mur de 2500 km dans le désert, entouré de mines antipersonnelles. Tu ne connais que le charme des riades et le faste du festival du film. Partez, partez, je ne veux plus vous voir, vous deux, j'en ai plus qu'assez. C'est bon, on s'en va. Dis, tu pourrais nous dire le métro le plus proche de l'Élysée ? Luis Sepúlveda, je suis très heureuse de vous recevoir dans cette émission. Pour tous les livres que j'ai lus en tant qu'adulte, pour les articles aussi que j'ai pu lire, mais aussi pour ces livres qui sont des contes, des fables, qui sont accessibles à la jeunesse, parfois à partir de 10 ans, il suffit d'être lecteur, ou peut-être avant, si les adultes les lisent aux enfants, car ce sont des livres qui sont dans le souci de transmettre. Est-ce que vous aimez particulièrement écrire des contes, des légendes, avec l'idée qu'ils vont être lus ou écoutés par des enfants ?
Bueno, la verdad es que nunca me he propuesto escribir específicamente para un lector determinado.
Je ne me suis jamais proposé d'écrire pour un lecteur déterminé.
Pero me produce una gran satisfacción saber que alguno de mis libros han sido especialmente bien acogidos, ¿no?, por los niños y por los jóvenes.
Eh bien, je suis très très satisfait de savoir que certains de mes livres ont été très bien accueillis, non pas par les enfants, mais par les jeunes.
Realmente el gran propósito que tengo al escribir es contar una buena historia, ¿no?, y contarla bien, que es lo que tiene que hacer un escritor.
Ce que je me propose quand j'écris, c'est de raconter une bonne histoire et de bien la raconter. C'est ça le travail d'un écrivain.
Pero como las escribe un hombre, ¿no?, que está construido sobre valores, ¿no?, sobre valores que son muy, muy sólidos, evidentemente esos valores están reflejados también en mis libros.
Mais comme ce sont des histoires qui sont écrites par un homme qui est constitué de valeurs sûres, mes histoires sont construites sur ces valeurs.
Ahora, lo que intento también con mis libros es hacer un ejercicio de oralidad, ¿no?, escribir como si estuviera contando en voz alta el libro.
Et aussi, ce que j'essaie de faire dans mes livres, c'est d'écrire pour sauver une certaine oralité. Je voudrais que mes livres soient des histoires racontées.
Alors ça tombe bien parce que je voulais justement lire un extrait de Histoire d'un chien mapuche, donc paru aux éditions Métellier. Et donc c'est un petit chien qui est dans le sac à dos d'Indiens qui montent avec leurs chevaux sur la montagne. Et ce petit chien va tomber du sac à dos et les hommes ne vont pas s'apercevoir qu'effectivement il est tombé. Ce petit chien va être dans la neige, dans le froid. Et je vais en lire un extrait. Alors bien sûr c'est une traduction, mais je crois que l'éditrice que vous êtes a bien trouvé le traducteur pour qu'on entende cette langue. Dans une montée, je suis tombée du sac et aucun homme ne s'en est rendu compte. Le vent froid emportait mes faibles aboiements. J'ai essayé de courir derrière les chevaux, mais je m'enfonçais dans la neige et, épuisée, je me suis couchée en sentant que toute la chaleur de ma peau s'en allait. La neige a commencé à me recouvrir, elle tombait avec la même douceur que le sommeil qui me fermait les yeux. L'obscurité recouvrait les montagnes lorsque je me suis réveillée en sursaut, en sentant une langue tiède et humide qui glissait de mon museau à ma queue. En même temps, un nez me flairait et du fond de ma courte mémoire, de ce que je ne connaissais pas encore, est arrivée une terreur qui m'a fait me recroqueviller encore plus. Mais la langue tiède qui me léchait a éloigné la peur et un peu réchauffé. J'ai laissé les crocs puissants me prendre par la peau du cou sans me faire mal. J'ai été amenée jusqu'à une grotte et là, mon sauveur, Nahuel, le jaguar, a partagé avec moi la chaleur de son grand corps. C'est un passage magnifique.
Gracias.
Et on a entendu un mot, Nahuel. Tout au long de ce livre, vous allez utiliser la langue mapuche et vous allez expliquer que c'est une langue qui vous est propre parce que même si vous n'êtes pas né en Araucanie, vous dites « je suis mapuche et moi aussi j'appartiens aux gens de la terre ». Et à la fin du livre, il y aura un glossaire pour traduire les mots. C'est important aussi de transmettre cette langue d'un peuple souvent oubliés, méprisés au Chili, mais aussi dans le monde entier, les Amérindiens, les Indiens, les peuples autochtones.
La relation que tiene el Estado chileno con los pueblos aborígenes, con los pueblos originarios, es una relación muy conflictiva.
Les relations du gouvernement chilien avec les peuples originels est une relation très conflictuelle.
Especialmente en el caso de los mapuches, ¿no? Que son más del 10% de la población.
Surtout avec les mapuches qui représentent 10% de la population.
Que habitan fundamentalmente en una región del sur, la Araucanía.
Qui habitent une région du sud, l'Araucanie.
Y es muy extraño, por ejemplo, que en las escuelas de la Araucanía no exista educación bilingüe. En la lengua mapuche y en castellano.
Et il est vraiment bizarre de voir que dans la région en Araucanie, il n'y a pas une éducation bilingue entre espagnol et mapuche.
Entonces, hay un problema y un conflicto que dura ya demasiado tiempo entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
Il y a donc une relation qui dure depuis très longtemps et conflictuelle entre le peuple mapuche et l'État chilien.
Y es una relación muy, es un conflicto, perdón, muy antiguo, ¿no? Porque cuando llegan los conquistadores españoles, hay una guerra entre los conquistadores españoles y los mapuches que dura casi 100 años, pero termina con un tratado de paz.
C'est une histoire qui remonte loin parce que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont entrepris une guerre contre les mapuches, ce qui a duré près de 100 ans, mais qui s'est terminée par une paix.
Y ese tratado de paz tenía también una frontera. En un río terminaba la parte española y hacia el sur de ese río empezaba el territorio mapuche.
Il y avait un traité qui séparait les territoires jusque au nord d'un fleuve, c'était les Espagnols, et au sud de ce fleuve, c'était le pays des Mapuches.
Los españoles y los mapuches respetaron rigurosamente ese tratado de paz y esa frontera por 300 años.
Les Espagnols et les Mapuches ont respecté scrupuleusement ce traité pendant 300 ans.
Pero en 1817 es la independencia de Chile.
Mais en 1817 est arrivée l'indépendance du Chili.
Y el nuevo país, ese joven país convertido ya en república, decide romper ese tratado de paz y ataca a la nación mapuche.
Et ce jeune pays qui était devenu une république décide de rompre ce traité et d'attaquer la nation mapuche.
Hay muchos muertos por el lado mapuche.
Il y a beaucoup de morts du côté des mapuches.
Y además abren las fronteras a una emigración europea casi incontrolada.
Et on ouvre la frontière à une immigration européenne totalement incontrôlée.
Llegan muchos europeos de lo que es Alemania, de Polonia, de Rusia.
Arrivent au Chili des Européens qui viennent de Pologne, d'Allemagne, de Russie.
Et à esos nuevos colonos les sont entregadas las tierras más ricas del sur, que son tierras de la nación mapuche.
Et on attribue à ces nouveaux colons les terres les plus riches du sud qui appartiennent aux mapuches.
Entonces, a partir de ahí nacía un conflicto porque los mapuches no se resignaban a perder su tierra.
C'est là qu'a commencé un conflit parce que les mapuches ne se sont pas résignés à perdre leur terre.
Y la respuesta del Estado chileno fue siempre la represión militar, policial y el ignorar la existencia de los mapuches.
Et la réponse du gouvernement a été toujours une réponse militaire, policière, et le fait d'ignorer les problèmes des Mapuches.
Et eran un pueblo invisible.
Les Mapuches sont devenus un peuple invisible.
Et si existían, era solamente como sinónimo de indio, borracho, flojo, que no quiere trabajar.
Et ils n'existaient que comme des Indiens ivrognes, mous et qui ne voulaient pas travailler.
Et donc, la relation entre l'État chileno et les Mapuches est une relation d'un odioso racisme.
La relation entre le gouvernement chilien et les Mapuches, c'est une relation d'odieux racisme.
El hablar cotidiano de los chilenos está lleno de palabras mapuche.
Parler quotidien de chilien est plein de mots mapuches.
Pero casi ninguno sabe que esas palabras son de origen mapuche.
presque personne ne sait que ce sont des mots d'origine mapuche.
No, y ahora hace muy poco se ha roto esa muralla de silencio, ¿no? Y los mapuches han empezado de nuevo a tener una voz poderosa.
Et récemment, ce mur de silence s'est rompu et les mapuches ont commencé à avoir une voix puissante.
La récupération de su lengua.
Ils ont récupéré leur langue.
L'aspiration de tener una educación bilingüe.
Ils ont demandé une éducation bilingue.
Y han aparecido algunos escritores mapuche que son extraordinariamente buenos e importantes.
Des écrivains mapuche extraordinairement bons et puissants sont apparus.
Por ejemplo, en estos días está en París un gran poeta mapuche que se llama Eyecura Chewailaf, que es un gran poeta.
Actuellement se trouve à Paris un grand poète mapuche dont Luis vient de dire le nom.
Eyecura Chewailaf. Que es un gran poeta.
C'est un très grand poète.
Y hay una la causa, ¿no? Mapuche, las razones de los mapuche han encontrado un eco muy grande en la juventud chilena.
Et la voix des mapuches, c'est les raisons d'être des mapuches, ont trouvé un écho de la jeunesse chilienne.
Hoy en todas las grandes manifestaciones de los estudiantes de Chile que están luchando por la educación pública laica gratuita.
Aujourd'hui, dans toutes les grandes manifestations de la jeunesse qui est en train de lutter pour une éducation gratuite, laïque et
pública.
Y pública.
No hay tantas banderas rojas, hay muchas banderas mapuche que se ven en las calles.
Il y a pas seulement des drapeaux rouges, il y a aussi des drapeaux mapuches.
Drapeaux que j'ai vus d'ailleurs au Chiapas, car des mapuches sont venus avec la jeunesse chilienne, des étudiants chiliens, des universités. Et effectivement, il y a une voix qui s'élève au Chili et ailleurs dans le monde. Il y a comme une métaphore dans un autre album magnifique qui s'appelle « Histoire d'un escargot » qui découvrit l'importance de la lenteur. L'importance de la lenteur m'a rappelé là aussi le mot d'ordre des Indiens zapatistes « lentement, en bas, à gauche ». Et cette métaphore de ces terres qui sont reprises, de ces vies, de ces cultures qui sont méprisées, piétinées, est magnifique et rejoint votre souci aussi du rapport entre les hommes et la nature. Et là, je vais lire un extrait de Histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler et qui est toujours édité chez Métellier, qui est une histoire magnifique où des chats un peu mafiosos, un peu, voilà, vont récupérer une mouette blessée et qui va pondre son œuf avant de mourir et ils vont lui promettre d'apprendre, d'abord de sauver, de couver cet œuf et d'apprendre à son oiseau, son oisillon, à voler. Et tout au long de ce livre, il y aura les valeurs de la loyauté, du courage, le poète aussi qui va venir sauver finalement les chats de l'incompréhension qu'ils ont des mouettes, parce qu'ils savent pas comment on apprend à voler, hein, une petite mouette. Et c'est le poète qui va trouver, par sa langue, le moyen de lui apprendre. Et je voudrais lire, juste parce que dans vos livres, il faut parler aussi de l'humour, il faut parler de l'ironie, il faut parler de tellement de choses. Je vais vous en lire un extrait, c'est vers la fin. Et donc, Zorba doit parler la langue des hommes. Je demande l'autorisation de briser le tabou pour la première fois de ma vie, miaula Zorbas, en regardant ses compagnons dans les yeux. Briser le tabou, miaulèrent les chats en sortant leurs griffes et en se hérissant. Miauler la langue des humains est tabou. C'est ce que disait la loi des chats. Et ce n'était pas parce qu'ils n'avaient pas intérêt à communiquer avec les humains. Le grand risque, c'était la réponse des humains. Que ferait-il d'un chat qui parle? Certainement, il l'enfermerait dans une cage pour le soumettre à toutes sortes d'expériences stupides, car les humains sont en général incapables d'accepter qu'un être différent d'eux les comprenne et essaye de se faire comprendre. Par exemple, les chats étaient au courant du triste sort des dauphins qui s'étaient comportés de façon intelligente avec les humains et que ceux-ci avaient condamné à faire les clowns dans des spectacles aquatiques. Et il savait aussi les humiliations que les humains font subir à tout animal qui se montre intelligent et réceptif avec eux. Par exemple, les lions, les grands félins ont été obligés de vivre derrière des grilles et d'accepter qu'un crétin mette sa tête dans leur gueule, les perroquets sont en cage et répètent des sottises, de sorte que miauler le langage des humains était un très grand risque pour les chats. Alors bon, ça, c'est évidemment magnifique. Luis Sepúlveda, ses contes sont autant pour les adultes que pour les enfants. Et on a le sentiment que quand on les lit tous, les uns après les autres, ce que j'ai fait avec aussi Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis, au-delà de, par exemple, dans cet album, de toutes les valeurs de l'amitié que vous allez décrire, hein, les amis s'entraident, les amis veillent toujours sur la liberté de l'autre, les amis comprennent les limites de l'autre et viennent en aide, etc. On va tout au long des pages comprendre ce que c'est que l'amitié, mais là encore une fois, il y a des leçons qui dessinent un autre monde.
Bueno, son los comentarios que me hacen muy feliz.
Ces commentaires me font très plaisir.
No, la verdad es que intento que en todas mis historias, además de los personajes que naturalmente participan en una fábula, haya también unos personajes invisibles, pero que también están ahí.
J'essaie que dans toutes mes histoires de créer, à part les personnages principaux qui sont là, des personnages qui sont invisibles.
Y esos personajes son los valores, ¿no? Valores esenciales como la solidaridad, ¿no? El respeto al diferente, el respeto a la diferencia, ¿no?
Ces personnages sont par exemple la solidarité, le respect pour l'autre, le respect pour ce qui est différent.
El respeto al que está en condiciones desiguales a las que nosotros tenemos.
Et celui qui est dans une situation injuste, inégale par rapport à celle qui est la nôtre.
El deber elemental de proteger al más débil.
Le devoir élémentaire de protéger les plus faibles.
El deber de decir bienvenido al que es diferente y llega a donde nosotros estamos.
Le devoir de dire bienvenue à celui qui est différent et que nous devons accueillir.
Son los viejos valores de la humanidad, pero que a mí me gusta que sean personajes de las historias que escribo.
Ce sont des vieilles valeurs de l'humanité, mais j'aime que ils soient des personnages dans mes histoires.
Y me llena de satisfacción ver que, bueno, la respuesta de los lectores ha sido en general una muy buena respuesta porque han entendido esos valores y porque defienden esos valores.
Je suis très content de voir que les lecteurs ont répondu et que parce que ils partagent ces valeurs et ils défendent ces valeurs.
Me llena de orgullo, por ejemplo, de que en países de culturas tan diferentes a mi cultura, como puede ser el Vietnam, tres de esos libros estén en los planes de lecturas de los estudiantes de Vietnam.
Je suis très fier de voir que dans des sociétés qui sont si différentes de la nôtre, par exemple au Vietnam, ces livres soient dans les plans de lecture pour les étudiants au Vietnam.
Ou que la biblioteca pública de Ocosingo en Chiapas, ¿no? Sean esos cuatro libros los libros más leídos de la biblioteca.
Que ces quatre livres soient les livres les plus lus de la bibliothèque de Ocosingo dans le Chiapas.
Eso me confirma que primero que los valores están vivos, que están muy vivos, y que al lector le gusta que esos valores estén en un relato, que estén en una historia.
Ça me rassure de savoir que ces valeurs sont toujours vivantes et que les lecteurs aiment de voir ces valeurs vivantes dans les récits.
Sepúlveda, je vais le dire comme ça, il est universel et de tous les temps, comme les grands, j'ai enlevé son prénom. On retrouvera sur notre site tous les livres, ceux aussi du Chiapas, des contes qui eux aussi nous apportent ces valeurs de très très loin, mais qui vont nous amener vers l'avenir, parce que la lenteur est sans doute le chemin de l'histoire et pas le contraire. Il y a tous les livres aussi vraiment pour adultes, L'Ouzbek muet, ces petites nouvelles, mais tellement drôles, tellement percutantes. Vous êtes une éditrice, Anne-Marie Métellier, heureuse d'avoir un auteur qui nous donne tant de beaux livres.
Quand j'ai rencontré Luis Sepúlveda il y a 25 ans, son livre avait changé ma vie. Le vieux qui lisait des romans d'amour m'avait fait passer une soirée extraordinaire. J'avais presque manqué mon avion juste pour rester à le lire. Et on a commencé à travailler ensemble. Et c'était un bonheur parce que je me suis rendu compte que nous partageons beaucoup de valeurs et que nous avons créé, je crois, une amitié qui dure.
Alors, il y a une vraie cohérence éditoriale dans votre maison aussi. Si on faisait la liste de vos auteurs, c'est pas toujours possible. On voit des grandes maisons qui, éditent des gens qui pourraient s'écharper dans un débat. Chez vous, on a l'impression que...
J'ai publié 1200 livres dans les 38 dernières années et je suis très contente de voir qu'il y a un air, une ambiance que nos auteurs partagent, et j'aime bien les faire se rencontrer et j'aime bien qu'ils se lisent les uns les autres, et c'est ce qui arrive en particulier dans le groupe des latino-américains. C'est vraiment, ils se connaissent tous, je ne crois pas qu'ils aient rejeté quiconque. Il y a une communauté de pensée.
C'est une vraie volonté pour vous. Vous avez l'air de dire, ah tiens, je m'aperçois de ça. Non, vous pourriez éditer quelqu'un avec qui vous ne partagez pas des valeurs.
Ah non, là non. Je pense que c'est pas possible pour moi de publier. Publier un livre, c'est difficile. C'est pas que ça soit très compliqué techniquement, mais c'est comme faire un enfant. Donc c'est tellement difficile de l'élever après, de le faire arriver jusqu'au lecteur après, que si vous ne l'aimez pas profondément, c'est pas la peine de le faire. Parce que tous les efforts que vous allez faire, il faut au moins que ça vous satisfasse.
Alors, Luis Sepúlveda, ça sera ma dernière question. Est-ce que votre choix d'être édité en France chez Anne-Marie Métellier exclusivement, je crois, est un choix qui correspond à ce que vous êtes, c'est-à-dire attaché à des valeurs et où tout est important, où tout signe que l'on donne a son importance et son éthique?
Sí, bueno, primero, yo tuve un golpe de suerte magnifique de que mi primera novela cayera en manos de Anne-Marie Métellier.
D'abord, eu un grand coup de chance de que mon premier roman tombe entre les mains de Anne-Marie Métellier.
Et naturellement, comme tous les écrivains latino-américains, tenía el secreto deseo de alguna vez ser traducido al francés, ser publicado en Francia.
Comme tous les latino-américains, j'avais le désir d'être publié en France.
Conocí a Anne-Marie, se dio nuestro contacto, nació una amistad. Me di cuenta primero que estaba en manos de una gran editora.
Lorsque j'ai connu Anne-Marie, je me suis rendu compte que j'étais entre les mains d'une grande éditrice.
No, de verdad, porque Anne-Marie Métellier tiene entre las muchas virtudes de editora es su crueldad. Porque critica con dureza cuando hay que criticar.
Sí, parce que parmi les grandes qualités d'Anne-Marie Métellier, il y a sa cruauté. Parce qu'elle critique durement.
Sí. Normalmente uno puede llegar con un manuscrito donde Anne-Marie lo lee y dice, pero ¿cómo es posible que un gran escritor como tú se permita esta estupidez?
Parce qu'on peut arriver, mettre entre ses mains un manuscrit et elle vous dise, mais comment tu peux avoir écrit une stupidité comme ça? Et on remercie de ça.
Non, parce que le grand aliado d'un escritor es su editor, eso está claro.
Le grand allié d'un écrivain, c'est son éditeur.
Merci vraiment d'être venu dans cette émission. Je suis vraiment très touchée. J'aurais eu 1000 autres questions à vous poser. Vous proposez aussi peut-être de lire, si vous ne le connaissez pas, Là où se termine la Terre. Là où se termine la Terre, c'est une histoire. C'est l'histoire du Chili à travers l'enfance et l'adolescence de Pedro. On revit le bouillonnement d'un quart de siècle d'histoire chilienne. Et ce sont deux auteurs, Désiré et Alain Frappier, qui nous donnent des romans graphiques magnifiques. C'est édité aux éditions Steinkase. Je vous laisse le voir et je vous dis à bientôt. J'espère en tout cas en vous lisant. Tous les livres seront sur notre site. En quittant les chemins buissonniers, on peut réécouter ou télécharger bien sûr cette émission sur le site de franceculture.fr. Le temps buissonnier, c'est toute une équipe. Aline Payet, Franck Lila, Annie Comier et à la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. Le temps buissonnier a filé trop vite, encore une fois et particulièrement aujourd'hui. Et je vous laisse en compagnie du premier journal d'information de la journée sur France Culture. Bon dimanche.